Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, il est 5h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019. À la présentation, Nanit Talani
et Michel Joseph.
À la une ce matin.
En Angola, comparution devant la justice du fils de l'ex-président Dos Santos pour corruption présumée.
L'Union européenne maintient des mesures restrictives visant 12 cadres du régime de l'ex-président Kabila.
Au Kenya, un lion recherché pour avoir tué un homme à Nairobi.
En France, risque de durcissement de la grève qui paralyse le pays.
Ici aux États-Unis, décision de Trump, démocrate et républicain, à couteau tiré sur les conclusions de l'enquête.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives dans 10 minutes.
En attendant, le journal.
En Angola, le fils de l'ancien président José Eduardo Dos Santos a commencé à comparaître hier devant un tribunal de Luanda pour des faits de corruption présumés. Le point avec Lionel Gaïma.
José Filomeno Dos Santos, 41 ans, est jugé devant le tribunal suprême de Luanda avec trois complices présumés, dont Walter Felipe da Silva, ancien gouverneur de la Banque centrale. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence de crédit suisse dans le cadre d'une fraude qui lui aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Surnommé Zedou, le fils de l'ex-président a été nommé en 2013 à la tête du fonds souverain, chargé d'investir les importants revenus pétroliers du pays. Il a été limogé en janvier 2018, quelques mois après le départ à la retraite de son père. Le nouveau président, João Lourenço, a limogé depuis son arrivée la plupart des proches de son prédécesseur. Isabel Dos Santos, démissœur de José Filomeno, a été évincée du poste de PDG de la compagnie pétrolière nationale, la Sonangol. Présentée comme la femme la plus riche du continent, elle fait elle aussi l'objet d'une enquête pour détournement de fonds.
L'Union européenne a décidé hier de maintenir pour un an des mesures restrictives visant 12 cadres du régime de l'ex-président Joseph Kabila et de les lever pour deux d'entre eux. Le point avec Eddy Issango.
Le Conseil européen a pris cette décision sur la base d'une évaluation de la situation en République démocratique du Congo, rappelant que le pays a connu en début d'année les premiers transferts de pouvoir pacifiques de son histoire. Une source diplomatique affirme que Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, et Roger Kibelissa, ancien chef de l'Agence nationale des renseignements, sont les bénéficiaires de la levée des sanctions. Monsieur Mende est redevenu député. Monsieur Kibelissa a été nommé assistant du conseiller spécial en matière de sécurité du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ces sanctions, dont les gels des avoirs et des visas, ont été imposées en décembre 2016, puis début 2017 pour violation des droits de l'homme et en travaux au processus électoral. Elle visait aussi Kalev Mutonde, ancien chef de l'ANR, Emmanuel Ramazani Shadari, chef du Front commun et ancien candidat à la présidentielle, et John Numbi, inspecteur général de l'armée, appelé en renfort la semaine dernière auprès de l'état-major à Beni pour combattre les groupes armés qui font des massacres dans la région.
La justice algérienne doit rendre ce mardi son verdict dans le procès pour corruption de deux anciens premiers ministres de l'ère Bouteflika, jugés avec d'autres anciens hauts dirigeants politiques et des grands patrons. C'est la première fois depuis l'indépendance en 62 que sont jugés des dirigeants de ce rang. Le procureur a demandé des peines allant de 8 à 20 ans de prison ferme à l'encontre de deux anciens chefs de gouvernement, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sélal, sans compter la confiscation de biens de tous les accusés. Pour la première fois, prenant la parole dimanche, avant le verdict, les principaux prévenus ont protesté de leur innocence.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reçoit ce mardi à Oslo le Nobel de la paix lors de festivités réduites au strict minimum. Plus jeune dirigeant d'Afrique, le leader de 43 ans va se voir formellement remettre le prix lors d'une cérémonie en présence de la famille royale norvégienne. La prestigieuse récompense lui avait été attribuée le 11 octobre pour saluer tout particulièrement ses efforts de paix entre son pays et l'Érythrée voisine.
Un lion a tué un homme lundi à Nairobi après s'être échappé du parc national situé au sud de la capitale kényane, d'après une annonce des autorités chargées de la faune qui avertissent que l'animal est toujours en liberté dans la ville. Le service kényan de la faune qui gère le parc a lancé des recherches pour localiser et endormir le lion. Le service appelle le public à rester calme et à ne pas s'aventurer dehors la nuit jusqu'à ce que le lion soit capturé. Le parc, situé à 7 km du centre de Nairobi, et ce n'est pas la première fois que des animaux errent dans cette ville. Le parc est entouré de clôtures électriques, mais pas complètement, ce qui permet la migration traditionnelle d'animaux à la recherche de pâturage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, la grève qui paralyse le pays risque de durcir aujourd'hui. Les Français sont en colère contre le projet de réforme du système des retraites. Les précisions avec Irénée Herman-Ungbo.
Métros et trains de banlieue bondés, quais noirs de monde, des centaines de kilomètres de bouchons en région parisienne. La situation d'hier risque de se reproduire aujourd'hui pour la 6e journée consécutive. La grève va entraîner des perturbations non seulement dans les écoles, mais aussi dans les ports. Ce sera une grosse vague, a prédit le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Sous pression, l'exécutif doit lever le voile à deux mains sur une réforme des retraites. Le gouvernement défend un système universel par points censé remplacer à partir de 2025 ou un peu plus tard les 42 régimes existants. Mais ses opposants redoutent une précarisation des retraités. Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, estime que le statu quo n'était pas tenable. De son côté, le syndicat patronal MEDEF a reproché au gouvernement un manque de clarté. Des économistes proches d'Emmanuel Macron ont aussi appelé à plus de clarté. La CGT dit réfléchir à une nouvelle journée de mobilisation jeudi. De leur côté, quatre syndicats du transport routier et de la logistique ont appelé à la grève le 16 décembre pour de meilleures conditions de travail.
Le chef de la diplomatie américaine, Mark Pompeo, a fait part hier à son homologue égyptien Sameh Shoukry des inquiétudes des États-Unis au sujet de la liberté de la presse et de la situation des droits humains en Égypte. Lors d'une rencontre à Washington, il a également évoqué le cas des ressortissants américains détenus en Égypte, notamment de Mustafa Kassem. Cet Américain est incarcéré depuis 2013, accusé de participation à des manifestations contre le pouvoir de Caire. Il a été condamné en 2018 à 15 ans de prison.
Dans une ambiance tendue, démocrates et républicains ont commencé à présenter hier au Congrès américain leurs conclusions diamétralement opposées de l'enquête pour la mise en accusation du président Donald Trump. Le point avec Idriss Fall.
On a voté pour Donald Trump, a crié hier un manifestant peu après l'ouverture de l'audition à la Chambre des représentants. Les Américains en ont assez de cette arnaque d'enquête, a-t-il ajouté, avant d'être escorté par la police hors de la salle. Le président Trump a placé ses intérêts avant ceux du pays, a martelé Jerry Nadler, président démocrate de la commission judiciaire. Les démocrates n'arrivent pas à se remettre du fait que Donald Trump est président, a répondu Duke Collins, élu républicain et numéro 2 de la même commission. Pour lui, tout ça, c'est politique, c'est du spectacle. Après 2 mois d'enquête et une quinzaine d'auditions, la commission du renseignement a refilé le dossier à la commission judiciaire. Cette dernière doit rédiger cette semaine les chefs d'accusation, puis il y aura un vote en séance plénière à la Chambre pour la mise en accusation du président, très probablement avant Noël. Le président devrait par la suite être acquitté lors d'un procès au Sénat où les républicains sont majoritaires.
Le président russe Vladimir Poutine a rencontré lundi pour la première fois son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un sommet à Paris visant à faire avancer les efforts pour rétablir la paix dans l'est de l'Ukraine. Les deux chefs d'État s'entretiennent avec les dirigeants français et allemands dans le cadre d'un nouvel effort pour mettre fin à un conflit qui a tué plus de 13 000 personnes depuis 2014. Même si diplomates pensent que les perspectives de paix sont minces. Kiev veut sceller un cessez-feu durable dans la région du Donbass. l'échange de tous les prisonniers et un calendrier pour le retrait de toutes les forces armées illégales des régions sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie, ont déclaré des responsables ukrainiens.
Voilà pour le journal. Vous écoutez LME sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, place à l'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco présentée ce matin par Irénée Hermanoumbo.
Le Bénin nourrit le projet de création de sa compagnie aérienne nationale. C'est ce qu'a récemment révélé Hervé Khéroumin, ministre des Infrastructures et des Transports, indique l'agence Ecofin. La tribune économique annonce également que la Côte d'Ivoire bénéficiera d'un financement de 133,4 millions de dollars et d'une extension d'un an de la facilité élargie de crédit accordée par le FMI. En Égypte, le ministre de l'Énergie a annoncé que la dette vis-à-vis des compagnie pétrolière a atteint son plus bas niveau depuis 2010. Elle est actuellement évaluée à 900 millions de dollars que l'exécutif compte solder au cours de l'exercice 2019-2020. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures a connu une augmentation de sa production de pétrole brut qui se chiffre à 21,28 millions de barils au 31 octobre, soit une hausse de 4,18% par rapport aux réalisations de l'année 2018.
À présent, c'est la page sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nous commençons par l'Angola, la RD Congo et le Sénégal qui sont éliminés du mondial féminin de handball.
Oui, non qualifiés pour le tour principal du mondial de handball féminin, angolaise, congolaise et sénégalaise se contentent du tournoi de classement. Opposé à la France, l'Angola n'a pu rien faire, 17 à 28. Hier, les Palancas ont battu l'Argentine 30 à 27. Dans la confrontation 100% africaine, le Sénégal a pris le dessus sur la République démocratique du Congo, 28 à 23, puis s'est incliné devant le Brésil 22-18, pendant que la RD Congo courbait les Chines 27-29 face à la Slovénie.
Au Ghana, Asante Kotoko a un nouvel entraîneur.
Oui, après le départ du Norvégien Kjetil Zakariasen, au lendemain de l'élimination en Coupe CAF, le club ghanéen a engagé Maxwell Konadou, l'actuel entraîneur de l'équipe nationale locale du Ghana, a accepté le poste contre un contrat de 2 ans. Konadou avait déjà effectué un premier passage chez les Porcs Épics lors de la saison 2011-2012 avec le titre de champion du Ghana à la clé. L'objectif de ce nouveau bail est de requalifier Asante Kotoko pour la Ligue des champions. Le nouveau coach sera présenté à la presse aujourd'hui à Kumasi.
Yakuba, on n'oublie pas ce soir la Ligue des champions UEFA.
Le tenant du titre doit valider son billet pour les huitièmes de finale à Salzbourg lors de l'ultime journée des phases de poule. Liverpool est leader du groupe E mais n'est toujours pas à l'abri d'une désillusion des dernières minutes. Dans le groupe F, l'Inter de Milan et Dortmund se livrent un duel à distance pour arracher le dernier ticket, respectivement contre le FC Barcelone déjà qualifié et sans Lionel Messi pas convoqué pour ce déplacement, et le Slavia Prague déjà éliminé. Dans le groupe G, le Zénith Saint-Pétersbourg et Lyon peuvent prétendre au dernier billet pour les huitièmes de finale derrière Leipzig qualifié. Dans le groupe H, le duel Ajax-Valence à Amsterdam peut faire un malheureux, tandis que dans le même temps, Chelsea aura l'avantage d'affronter la lanterne rouge Lille.
Et pour finir, la Russie, suspendue 4 ans par la main.
Oui, l'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie des Jeux olympiques pour 4 ans et de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. Moscou est puni pour avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôle antidopage. La conséquence, c'est que les sportifs russes seront admis lors des compétitions, mais sous drapeau neutre, donc pas de drapeau russe ou d'hymne au JO et à tout championnat du monde. Le pays est aussi interdit d'accueillir ce type de compétition sur son sol. Il ne s'agit cependant que d'une étape car Moscou, via RUSADA ou son comité national olympique, ainsi que les fédérations internationales peuvent faire appel pendant 21 jours devant le tribunal arbitral du sport. En cas d'appel justement, ces sanctions seront suspendues jusqu'à la décision définitive du TAS.
Pour la NBA, Indiana a été battue par Los Angeles Clippers 99 à 110. Boston a écrasé Cleveland 110 à 88. Nouvelle-Orléans a été dévorée par Detroit 103 à 105. Milwaukee a corrigé Orlando 110 à 101. Houston a été vaincu par Sacramento 118-119. Chicago n'a pas fait le poids devant Toronto 92-93. Utah a perdu face à Minnesota 90-104. Et enfin, Phoenix a puni Minnesota 125-109. Nous attendons encore les résultats du match entre Memphis et Golden State.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Nanit Talani, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption. Un fléau présent presque partout et à plusieurs niveaux. Au Sénégal, on le retrouve fréquemment dans la circulation avec des chauffeurs souvent victimes de policiers véreux. De notre correspondant à Dakar, Sédina Abagaye.
1000 francs par ici, 2000 par là, à la place des contraventions, les billets de francs CFA sont devenus les principaux papiers échangés entre policiers et chauffeurs. Ces derniers n'ont d'ailleurs plus le choix. Ils s'y font, malgré eux. Moustapha Niang exprime son ras-le-bol.
On ne peut pas être chauffeur et ne pas être victime de la corruption. Quoi qu'on le dit haut et fort. La corruption, c'est un phénomène de l'année. Tout Sénégalais a vu ça. Tout ce qui prend la route sait et voit la corruption. Nous, on ne peut rien. Ce que nous déplorons, moi, c'est la corruption vraiment contrecarre notre travail.
Pour ne pas voir leur travail être au ralenti, les chauffeurs ont fini par s'adapter à cette situation. Maintenant, eux tous, ou presque, jouent le jeu pour éviter de perdre leur temps ou de s'attirer des problèmes évitables, comme l'indique Maudou Fall. De victimes, les chauffeurs passent donc, malgré eux, à partenaires.
On est même devenu des potes, hein. Tu passes et il te dit, donc tu pars et après, si tu reviens, tu vas verser. Si tu ne payes pas, ils amènent tes papiers et une fois à la poste, oui, ils peuvent même raconter des histoires. Te dire, on t'a arrêté et tu as refusé, tu n'as pas tes pièces complètes et tu les as manqué de respect. Ou parfois, ils racontent des choses que tu ne peux pas même comprendre.
Les chauffeurs ne sont pas les seules victimes de cette corruption présente dans la circulation routière. Les usagers se plaignent également de l'attitude de certains policiers. Pour eux, cela n'honore ni leur tenue, ni les valeurs de la République. Mbaïmba Kembang est un étudiant et pour lui, c'est une pratique inacceptable.
Je trouve que c'est écœurant de voir un pays comme le Sénégal confronté à ces corruptions très répétées de jour en jour. C'est pas fondé parce que c'est comme si c'était obligatoire pour eux de payer parce que... C'est comme si c'était un salaire pour les salaires journaliers, pour les policiers. Or que si tu as un cours à 8 heures et qu'on arrête les voitures, c'est un retard. C'est un retard, ça. Parce que l'éducation, elle est fondamentale. Un retard, tu peux tout perdre. Même 15 minutes de retard, tu peux tout perdre. Ça fait que retarder le pays, bon... Et de jour en jour, on est énervé par les problèmes de ces pays. Compte tenu de la corruption, c'est plus écœurant.
La corruption dans la circulation routière est certes très présente au Sénégal, mais elle ne concerne qu'une tranche des hommes détenus. À l'opposé, certains sont des policiers modèles et leur porte-étendard est le célèbre Amoul Yakar, jugé incorruptible par les usagers. C'est d'ailleurs sur lui que se base la police nationale pour redorer le blason des policiers présents dans la circulation routière. À Dakar, Sédina Abagaye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer l'exploitation sauvage et massive du bois dans la grande forêt humide équatoriale en Afrique qu'abrite la République démocratique du Congo. Cela notamment dans la Tchopo, province où des officiels sont souvent cités dans les trafics du bois. Edi Sango a joint à Kinshasa une députée nationale, Madame Eve Bazaïba, qui est initiatrice d'une question orale adressée à ce sujet au ministère de l'Environnement.
Je repose à Fedeco, une entreprise chinoise, qui est venue pratiquement ravager les forêts à Bassoko. de manière illégale, je dis bien illégale parce qu'ils ont obtenu certes l'autorisation du gouvernement congolais en ayant des accords, mais les habitants, donc les riverains, les ayants droit n'ont pas été informés. On leur a donné un accord pour la chefferie de Yaliwasa et ils ne procèdent même pas à l'abattage rationnel. Ils sont tentés de ravager les forêts en dépassant même la chefferie de Yaliwasa pour aller dans d'autres groupements sans ménagement et c'est l'abattage sauvage. Aujourd'hui, il y a même la biodiversité qui est mise en danger. La population meurt de faim. On n'a plus de chenilles dans la forêt. On n'a plus de tentes qui protégeaient l'environnement. Et tout ça, question de bien catastrophique. C'est pourquoi je dis qu'il y a un danger. Parce qu'ils ne font aucune activité de reboisement. Et ils ne choisissent même pas les essences et ils font ce qu'ils veulent.
Il y a sur place une coordination provinciale de l'environnement et du développement du qui est dirigé par un certain monsieur, je crois, Félicien Malou. Mais il semble que les Chinois et les autres exploitent sous la protection de l'armée ou de quelques militaires qui érigent des barrières.
Je ne connais pas qui les protège. Je ne suis pas dans les détails qui protègent. Moi, comme je joue mon rôle de parlementaire, j'interpelle le gouvernement et les ministres qui a dans ses compétences l'environnement. Donc c'est lui que j'interpelle, c'est à lui de nous donner des informations pour comprendre ce genre de ramifications. Mais là, je suis en train d'attendre jusqu'à présent l'Assemblée nationale n'a pas encore aligné, programmé cette question orale en ordre utile.
Mais les ministres ont quand même suspendu les permis d'exploitation de cette entreprise chinoise.
Ils avaient suspendu les travaux d'exploitation, mais ils ont réhabilité. C'est le gouverneur qui avait réhabilité par la suite le gouverneur des provinces. Ils ont réhabilité. Alors on voudrait savoir comment, pourquoi ils ont réhabilité et c'était dans quelles conditions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Quand même, le Congo est signateur de ce qu'on appelle CAFI, l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale qui paye 200 millions de dollars pour que l'exploitation soit réduite.
Je sais que le Congo a un grand rôle à jouer par rapport à la protection des forêts. Mais je sais aussi que le Congo a droit à une compensation, le Congo a droit à l'information, à la formation ou la gestion rationnelle des forêts. Parce que vous n'allez pas dire aux autochtones qui travaillent, qui vivent de la forêt, du jour au lendemain, vous leur dites ne touchez pas au bois de chauffage, ne touchez pas à XY, sans que vous leur dites l'information. Pourquoi ils ne doivent pas toucher et comment ils doivent se comporter et quels sont les moyens mis à leur disposition pour qu'ils puissent se comporter normalement.
Madame Eve Bazaïba, députée nationale à Kinshasa, joint au téléphone par Eddy Sango.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Pour beaucoup de gens, le jour du mariage est quelque chose dont ils ont rêvé depuis leur plus jeune âge. Mais pour des centaines de milliers de jeunes filles ici aux États-Unis, l'idée de mariage est souvent synonyme de cauchemar à cause du mariage des enfants. Le reportage d'Anouche Avetichan et le récit de Lionel Gaïma.
Une trahison dans ma propre famille. C'est ainsi que Friday Rice, qui a grandi dans une communauté juive orthodoxe de Brooklyn à New York, décrit ses 15 ans de vie dans un mariage arrangé. Après avoir échoué à divorcer, elle a obtenu un diplôme contre toute attente. Elle a économisé de l'argent et s'est enfuie avec ses deux filles. Friday Rice est maintenant militante très engagée.
Ma famille et ma communauté me considèrent comme morte plus de 10 ans après.
Son expérience a fait d'elle une militante déterminée à lutter contre le mariage arrangé, forcé et le mariage d'enfants. Elle a fondé dans le New Jersey une ONG, Unchained at Last, qui signifie « enfin libre » pour aider les victimes de mariage d'enfants. Depuis 2011, elle a aidé plus de 550 personnes à échapper à de tels mariages. En 2018, ses efforts ont conduit le New Jersey à devenir l'un des deux seuls États américains à interdire légalement le mariage de personnes de moins de 18 ans.
C'est vraiment choquant. Lorsque j'ai commencé à militer, le mariage des moins de 18 ans était légal dans les 50 États américains.
Dans la plupart des États américains, les jeunes sont autorisés à se marier à l'âge de 16 ans. Deux États américains autorisent les mariages à 14 ans et 13 autres États n'ont pas du tout d'âge minimum. L'Idaho a le taux de mariage d'enfants le plus élevé avec plus de 400 000 mariages de ce type entre 2000 et 2010. En 2019, la représentante démocrate Melissa Wintrow a tenté de relever l'âge minimum à 16 ans, mais elle n'a pas réussi.
Compte tenu de l'histoire et de la nature conservatrice de cet État, j'ai proposé ce que je pensais être un compromis très raisonnable pour fixer au moins le mariage à 16 ans, ce qui correspond à notre âge de consentement et à nos lois sur le viol.
En 2019, la Louisiane a relevé l'âge minimum du mariage à 16 ans et la différence d'âge entre le conjoint quand on est mineur ne peut pas dépasser 3 ans. Les législateurs et les militants contre les mariages d'enfants estiment que le problème est plus profond qu'un simple débat sur ce qui est une famille. La démocrate Melissa Winthrop, représentante de l'État de l'Idaho.
Si vous regardez la démographie des enfants qui se marient, ce sont des enfants blancs de la classe moyenne. C'est notre problème et il est profondément enraciné dans l'histoire sexiste dans notre pays.
Pour Freddy Reich, il n'y a pas de débat. Selon elle, les mariages d'enfants doivent être interdits car le gouvernement américain condamne de telles pratiques dans d'autres pays, les qualifiant de violation des droits de l'homme. Selon les données recueillies par son ONG, sur plus de 250 000 enfants mariés entre 2000 et 2010, la majorité sont des filles mineures qui ont donné en mariage à des hommes plus âgés.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors que la conférence sur le climat de la COP25 se tenait la semaine dernière à Madrid en Espagne, avait lieu un autre événement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. Un festival du film à Paris présentant des films de 60 secondes entièrement tournés sur téléphone portable. Le Mobile Film Festival, un concours de films dont le seul règlement est un mobile, une minute, un film, a pour objectif de sensibiliser la population à la question du climat. Pour cette édition, les films étaient axés sur les déchets plastiques, la déforestation, la pollution atmosphérique et autres problèmes. Arzuma Compaoré.
Plus de 800 films provenant de 91 pays ont été proposés au festival qui a été organisé en partenariat avec YouTube et Climate Change de l'ONU. Le fondateur du festival, Bruno Smadja, est revenu lors de la cérémonie de remise des prix à Paris sur l'objectif d'un film d'une minute.
C'est un smartphone, une minute, un film. Le concept le plus simple au monde. Un mobile pour être le plus accessible possible et supprimer toutes les contraintes financières et une minute pour être le plus créatif possible dans un temps très court.
Parmi les gagnants, Vacation, un court-métrage comique sur le voyage d'une bouteille en plastique dans l'océan Pacifique, et Wallet, un drame sur une famille payant un taxi avec de l'eau qui est devenue une ressource si rare. L'équipe à l'origine de Scream, qui a remporté le Grand Prix français, a voulu rendre l'aventure aussi écologique que possible. Christina Vieira, productrice du film Scream.
On est parti tourner en Normandie. C'était d'ailleurs un tournage éco-produit. Donc on a essayé d'avoir un bilan carbone le plus faible possible. Donc on est parti en Normandie en voiture électrique. Sur place, on a mangé bio et local. On a même ramassé des déchets qu'on a trouvés malheureusement sur la plage. Voilà, on était aussi, si vous voulez, dans le cadre de ce tournage, dans une vraie réflexion écologique.
Un nouveau rapport publié par l'Agence européenne pour l'environnement a révélé que des solutions fondamentales sont nécessaires dans la prochaine décennie pour éviter un changement climatique incontrôlé, une problématique présente tout au long du festival. Dali Ben Salah, membre du jury et acteur dans le prochain James Bond.
Une minute, ça peut être très long malgré tout. Et ensuite, voilà, du sens profond. Là, on a une thématique qui est énorme, mais il faut que le sens soit juste.
Hugo Becker est membre du jury et acteur dans le film Gossip Girl.
Vous ne pouvez pas dire ça va aller, ça ne va pas aller, ça va être long et ça va être, vous savez, ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources. Alors, il est clair qu'il nous faut être plus prudent et trouver d'autres façons de se comporter, de consommer. C'est un problème réel. Nous ne pouvons pas dire que tout ira bien, que nous allons simplement planter des arbres et que tout ira bien.
Le rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement européen, publié tous les 5 ans, appelle à intensifier considérablement les efforts pour lutter efficacement contre le changement climatique.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici à la technique d'Harold Smith. Un grand merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Nanit Talani dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.